podcast RFHT.
Bonjour, je m'appelle Antoine Mabuti, je suis médecin au Centre régional de traitement de l'hémophilie du CHU de Nantes et au laboratoire d'hématologie. J'ai la chance de pouvoir participer à ce podcast de RFHT avec le docteur Isabelle Archambault pour parler d'hémorragie digestive chez les patients atteints de maladie de Willebrand. Et donc je vais laisser le docteur Archambault se présenter et puis poser la première question.
Bonjour, je suis docteur Isabelle Archambault, donc je suis hépatogastro-entérologue sur le CHU Nantes. Et donc voilà, je m'occupe un peu de ces problèmes hémorragiques via aussi notamment la gestion de notre petite unité de soins intensifs. Et donc c'est vrai que c'est généralement chez nous que ces patients sont hospitalisés dans cette unité quand ils se mettent à saigner. Et donc moi j'ai eu la pression, alors souvent on fait appel à vous hein, pour gérer la partie facteur, et j'ai cette impression que toutes les maladies vibrantes sont pas forcément équivalentes en risque hémorragique. Alors nous on voit des 2, des 3, c'est un peu très flou pour nous hein, les gastro-entérologues. Et je sais pas si il y a une explication un peu, est-ce que c'est en lien avec la physiopathe ou sur le type de maladie?
Alors, c'est vrai que toutes les maladies de Willebrand ne se valent pas. D'abord, de façon assez logique, en fonction du taux de facteur de Willebrand en activité et en antigène, éventuellement du taux de facteur 8 que présentent les patients, et puis éventuellement à leurs autres facteurs de risque propres, d'autres facteurs de risque hémorragiques. Même si c'est vrai que les hémorragies digestives sont une manifestation clinique un peu particulière et touche certains patients préférentiellement, et en particulier les patients atteints de maladies de Willebrand de type 2A, de type 2B et de type 3. Et en fait, ce sont des patients qui ont des maladies de Willebrand très souvent avec une perte des multimères de haut poids moléculaire du facteur de Willebrand. Puisque ce sont les multimères de haut poids moléculaire du facteur de Willebrand qui sont les plus efficaces pour assurer l'hémostase. Et concernant la physiopathologie, il a été mis en évidence qu'en fait les multimères de haut poids moléculaire du facteur de Willebrand ont un rôle dans la néo-angiogénèse. Donc en fait, ça avait été montré dès les années 90 que les patients atteints de maladies de Willebrand de type 2 et de type 3 avaient plus de saignements digestifs que les maladies de Willebrand de type 1. Et puis, il y a une étude dans les années 2012 qui a comparé les maladies de Willebrand de type 2A, qui n'avaient pas avec une perte de multimère de haut poids moléculaire, à une cohorte de patients avec une maladie de Willebrand de type 2M, qui avaient leur multimère de haut poids moléculaire. Et ils ont parfaitement montré que les patients atteints de maladies de Willebrand de type 2A avaient beaucoup plus de saignements digestifs que les patients atteints de maladies de Willebrand de type 2M. Et puis il y a des travaux in vitro qui ont été également faits dans les années 2010 qui ont bien montré en fait que les multimères de haut poids moléculaire du facteur de Willebrand avaient un rôle de régulateur négatif dans la néo-angiogénèse. Et donc ça, ce sont des hypothèses physiopathologiques qui ne sont pas encore parfaitement élucidées. Et il y a encore plus récemment, en 2018, il me semble, une autre équipe qui a montré que certains médiateurs de la néo-angiogénèse étaient différents selon les types de maladies de Willebrand. Donc voilà, il y avait tout un faisceau d'arguments qui laisse à penser que le facteur de Willebrand, et en particulier les multimères de haut poids moléculaire, ont un rôle dans la néo-angiogénèse, qui pourrait expliquer que les patients atteints de maladies de Willebrand de type 2A, 2B ou de type 3 ont plus de saignements digestifs que les autres patients atteints d'autres types de maladies de Willebrand.
D'accord, et donc ça pourrait favoriser ces enjeux dysplasie. Du coup, c'est quand ils viennent et qu'ils sont hospitalisés pour ces hémorragies, en fait, en protocole, nous on voit que vous mettez des facteurs, mais c'est comment ? C'est des protocoles personnalisés en fonction du type du patient ? C'est un protocole type, quelle que soit la maladie de Willebrand, puisque une maladie de Willebrand qui saigne, on fait un protocole type ? Enfin, comment ça fonctionne ?
Alors, on adapte le protocole à chaque patient, mais globalement, le protocole suit à peu près toujours le même schéma. on s'assure toujours de stabiliser le taux d'hémoglobine du patient. Donc ça, c'est notre préoccupation principale. On fait une NUM, éventuellement on transfuse des culots. Et puis on normalise l'hémostase en apportant du facteur de Willebrand. Donc en fait, le protocole va s'adapter au taux de facteur de Willebrand du patient. Et donc on va apporter la quantité de facteur de Willebrand nécessaire complémentaire pour normaliser ces taux et permettre l'hémostase et vous permettre vous de lancer les explorations digestives. Et puis c'est vrai que pour certains types de maladies de Willebrand qui ont des taux de facteur 8 bas, donc en particulier dans la maladie de Willebrand de type 3 qui ont des taux de facteur de 8 bas, initialement dans le protocole, on y associe des doses de facteur 8 pour normaliser également le taux de facteur 8 et permettre l'arrêt des saignements. Et puis associé donc au concentré de facteurs de Willebrand éventuellement aux transfusions de globules rouges, on met toujours quasiment toujours des antifibrinolytiques, donc de l'acide tranexamique pendant une dizaine de jours pour aider à la cicatrisation de la muqueuse. Ce qui va peut-être me permettre de rebondir sur une question pour vous, docteur Archambault. C'est vrai parfois, on ne peut pas faire les endoscopies digestives en urgence, ou alors elles ne retrouvent pas forcément de lésions à traiter. Est-ce que éventuellement vous avez d'autres moyens de mettre en évidence ces enjeux dysplasie digestive?
Oui, tout à fait. C'est vrai que l'accès, déjà, c'est des anesthésies, enfin, c'est des examens qui sont sous anesthésie générale. On sait que la majorité, quand même, des enjeux dysplasie ont quand même une localisation préférentielle au niveau du côlon. Donc, ça nécessite une préparation colique, hein, donc il faut faire la purge. Et donc, c'est jamais des examens qu'on peut toujours faire en grande urgence. Et donc, il y a en effet d'autres moyens non invasifs de repérer le saignement. Je pense que celui qui doit être facilement accessible, en premier lieu, c'est l'angioscanner. Alors, il y a eu quelques études, angioscanner ou angio-IRM, peut-être un peu moins accessible sur le parc, on va dire, d'appareils et la disponibilité de l'IRM. Angioscanner, donc c'est un scanner avec une injection de produits de contraste et des acquisitions d'images à des temps très précoces, artériels. C'est un examen qui est assez sensible, en tout cas au niveau colique, on estime à 70%. En comparaison, hein, par exemple, au bilan endoscopique, et ça on peut discuter, la coloscopie, finalement, c'est une sensibilité de 68-80%, donc c'est à peu près la colo, mais voire des fois même un petit peu mieux. Et par contre, c'est très spécifique, ça, c'est des anomalies quand on les repère, on sait que ça saigne, qu'on peut avoir des vaisseaux un petit peu plus ectasiques, une paroi de côlon, enfin du tube digestif avec un acide vaisseau qui permet un peu de repérer repérer l'endroit où ça saigne, donc ça permet une localisation. Et qui permet, en fait, l'idée c'est d'orienter, bien sûr, peut-être plus facilement un geste derrière endoscopique. Dans les autres choses qui existent, l'artériographie, ça, je pense que ça ne doit pas être réservé à une prise en charge diagnostique, mais plutôt thérapeutique, puisqu'en fait le radiologue va devoir en fait aller dans les différents segments artériels, donc il ne peut pas tout essayer pour voir où ça saigne sur tout le cas de colique, hein, il y a quand même beaucoup trop de possibilités. Donc je pense que ça, c'est l'artériographie doit être à visée thérapeutique sur un saignement actif, hein, il faut un saignement artériel hein, pour qu'on puisse le voir en artériographie, donc un saignement assez important en vue d'une éventuelle embolisation et avec les risques que ça comporte, d'ischémie digestive derrière. Et sinon, dans les autres outils non invasifs, hein, je parle pas de la vidéocapsule, hein, que je mets ça un peu dans le truc endoscopique, mais il y a scintigraphie au globule rouge marqué. Alors ça, c'est vraiment plutôt pour ce qu'on appelle les saignements occultes, c'est-à-dire des gens qui saignent, ils se déglobulisent, on fait fibro, colo, vidéocapsule, rien. Angioscan, rien, c'est vraiment les saignements occultes. Et ça permet, on va dire, on voit une prise de con sur la. On voit un marquage, hein, au technétium dans une zone qui nous permet de dire que c'est à peu près là que ça saigne, ce qui permet, on va dire, de cibler. C'est-à-dire qu'on va après recommencer éventuellement une vidéocapsule, recommencer une fibro dans cette zone-là, de manière plus spécifique. Et des fois, là, c'est vraiment des stratégies ou des discussions avec vous C'est-à-dire qu'on va un peu faire saigner, entre guillemets, le patient pour nous permettre de repérer plus facilement la lésion qui saigne par voie endoscopique. Donc voilà, donc la scintigraphie, c'est vraiment quand on ne sait pas du tout d'où ça saigne, c'est pour nous réorienter un peu plus vers le haut, un peu plus vers le bas ou un peu plus vers le milieu. C'est vraiment ça reste. Et puis après, on reprend les investigations générales. Mais donc, il faut quand même retenir que la majorité des lésions sont plutôt dans le côlon ou digestif haut. Donc c'est pour ça que commencer par une fibroscopie, coloscopie en première intention, c'est pas dingue, mais un scanner a tout à fait sa place chez quelqu'un qui a déjà été multi-exploré. Hein.
Merci. Oui, c'est vrai que parfois, quand on a des endoscopies qui sont prévues pour des patients qui ont des saignements un peu chroniques comme ça, qui se déglobulisent, c'est vrai que parfois on est presque content quand ils viennent vous voir et qu'ils ont eu des saignements peu de temps auparavant, en se disant que vous allez peut-être pouvoir tomber sur une lésion accessible et qu'on va peut réussir finalement à voir quelque chose. Et du coup, parmi les outils endoscopiques dont vous disposez, alors c'est vrai que nous, du point de vue des hématologistes et des spécialistes de l'hémostase, on est vraiment, on n'y connaît rien là-dedans. Est-ce que vous avez des outils qui sont plus efficaces que d'autres pour le traitement des angiodysplasies ou finalement, est-ce que vous traitez toujours de la même façon toutes les lésions?
Non, globalement, on traite de toutes les lésions de la même manière. La technique la plus répandue, c'est ce qu'on appelle le plasma argon. Donc, c'est un gaz. Et puis, on fait passer un courant électrique dans ce gaz. Et ça va faire, en fait, un petit arc électrique. Et ça voulait, entre guillemets, faire une coagulation, une électrocoagulation sur de très, très superficielle, hein, 0,1 à 3 mm, en gros, de profondeur. Donc, c'est vraiment l'idéal pour ces angiodysplasies qui sont des lésions quand même assez superficielles hein, au niveau de la muqueuse hein, digestive et donc avec moins de complications parce que la complication c'est la perforation qui arrive de manière plus fréquente dans le cécum puisque la paroi colique à ce niveau-là est beaucoup plus fine. Après, nous, dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on injecte un petit peu de sérum fine, un peu d'eau pour faire un petit coussin et pouvoir griller la lésion sans risque de perforer. Donc, c'est efficace. Alors, je parle hors maladie de Willebrand, hein, dans 85% hein, dans les lésions coliques. Le grêle, un petit peu moins. C'est surtout qu'en fait, ça récidive. C'est pas forcément les lésions traitées qui récidivent, c'est l'apparition de nouvelles lésions. Donc c'est pour ça qu'on des fois on a l'impression que c'est pas efficace, c'est parce que ben on en traite 10 et il y en a 20 qui apparaissent derrière. Voilà, et donc c'est il faut voir qu'on grille lésion par lésion, donc on peut être aussi dépassé en termes de nombre et de surface à traiter. Et après, il y a d'autres techniques, mais qui sont plus anecdotiques. Il y avait des pinces, ce qu'on appelle des pinces chaudes. C'est comme une petite pince, il y a un courant qui passe. Mais là, pareil, c'est des coagulations trop fortes avec, pour des lésions superficielles avec des risques de perforation. Il y a quelques données sur ce qu'on appelle le laser YAG. Mais bon, le plasma argon, c'est quand même une technique qui est quand même surdiffusée, facile à utiliser, avec quand même d'assez bons résultats. Donc bon, on n'a pas forcément envie de d'autres choses. Et après, dans les trucs un peu plus anecdotiques, des fois, quand on voit que ça saigne beaucoup, on peut mettre des clips. Hein, ce qu'on appelle un clip, c'est comme une espèce de petite agrafe métallique qui va, on va dire, ben, pincer le vaisseau qui saigne. Voilà, il y a de la sclérose, mais ça, c'est plus rapporté sur les angiodysplasies de type rendu osselaire qui, elles, sont moins superficielles. Et donc plus profonde, et donc on a envie de, on traite plus en profondeur. Donc c'est vraiment le plasma en termes de traitement pour nous, c'est vraiment le plasma argon qui est le traitement de référence par voie endoscopique. Et puis bah qui est efficace sur les lésions, mais le souci en effet c'est plus la récidive et l'échec en fait de prise en charge endoscopique, il est là en fait, c'est l'accessibilité des lésions au traitement endoscopique. Le nombre aussi. Donc, nous, c'est vrai que bah, on voit, on traite, ça récidive, on traite, ça récidive. Et donc, voilà. Donc, c'est souvent là où je pense que vous intervenez pour essayer de mettre un traitement d'entretien, puisque le traitement endoscopique a ses limites. Hein.
Alors, ouais, c'est vrai que Parfois, on est amené à mettre des traitements de façon prolongée, des prophylaxies de plus ou moins longue durée chez ces patients qui sont atteints de maladies de Willebrand avec des angiodysplasies et des saignements digestifs itératifs. Et c'est vrai qu'on prend souvent la décision de l'initier quand le bilan endoscopique a été fait, a été répété, et était exhaustif et ne retrouvait pas de lésions accessibles. Donc, il y a plusieurs études qui ont proposé des schémas à partir desquels on instaure une prophylaxie. Et puis, donc en 2015, il y a une équipe qui a recommandé d'instaurer une prophylaxie devant au moins deux épisodes sévères sans cause identifiée, avec une chute de la concentration en hémoglobine d'au moins 2 grammes par décilitre ou qui nécessitait une transfusion de globules rouges ou des concentrés de facteurs de Willebrand. Donc, c'est vraiment la répétition des saignements avec des déglobulisations qui nous amènent à initier donc une prophylaxie avec des concentrés de facteurs de Willebrand. Donc c'est une prophylaxie qui se fait par des injections de facteurs de Willebrand 2 à 3 fois par semaine. Et puis la posologie en général, ça, on commence à entre 30 et 50 unités par kilo. Alors malheureusement, ces prophylaxies par concentré de facteurs de Willebrand sont moins efficaces pour prévenir les saignements digestifs que d'autres types de saignements. Par exemple, dans les maladies de Willebrand de type 3 qui ont des prophylaxies, ça protège beaucoup mieux contre le risque de saignements intra-articulaires ou d'autres types de saignements. Et c'est vrai que la prophylaxie par concentré de facteurs de Willebrand n'est pas toujours efficace pour empêcher les saignements digestifs. Alors l'une des hypothèses c'était que donc il fallait ces fameux multimères de haut poids moléculaire pour permettre une inhibition de la néo-angiogénèse qu'il n'y a pas forcément dans les concentrés de facteurs de Willebrand. Alors il y a un nouveau concentré, enfin un nouveau, il est plus si nouveau que ça, il y a un concentré de facteurs de Willebrand, le Vonicog alpha, qui est censé être plus riche en multimères de haut poids moléculaire de facteurs de Willebrand, et donc qui pourrait peut-être permettre de mieux traiter et de mieux prévenir l'apparition de ces angiodysplasies, de ces saignements digestifs. Malheureusement, on n'a pas encore d'études qui montrent sa supériorité ou non sur d'autres concentrés de facteurs de Willebrand, mais c'est quelque chose qu'on a en tête et qu'on va essayer de regarder, qu'on va essayer de regarder à l'avenir. Et puis enfin, en dernier recours, eh bien, en concertation pluridisciplinaire avec vous et puis avec les patients, on peut essayer des molécules anti-angiogéniques. Donc il y en a plusieurs qui ont été essayées, l'octréotide, le thalidomide. Je vais pas faire toute la liste. Et puis voilà, cette prescription se fait hors AMM avec un niveau de preuve qui est assez faible et qui ne marche pas toujours. Et donc ce qui me permet de revenir vers vous. Chez les patients qui n'ont pas forcément de maladie de Willebrand, mais qui ont des angiodysplasies digestives et des saignements digestifs, quand est-ce que pour vous il est légitime d'initier ce traitement pharmacologique? Parce que c'est vrai que nous, c'est des molécules qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, on ne sait jamais vraiment trop quand initier le traitement. Et puis en général, vous commencez par quel traitement? Et puis quand est-ce que vous considérez que le traitement du coup n'est plus efficace et puis que vous essayez de changer de molécule?
Alors, il n'y a pas de recommandation écrite dans le marbre, hein, parce que finalement, il n'y a pas d'études de stratégie ou des choses comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que y a deux cas de figure. Soit d'une part, on est sur des lésions qui sont non accessibles à un traitement endoscopique, type médio-grêlique. Voilà, au milieu du grêle, il faut avoir faire une entéroscopie pour voir ce que c'est. Hein, si on avance, on tire le grêle sur le tube et ainsi de suite. Ça avance un peu comme si vous voulez un ver de terre là, qui rampe dans le terrain. C'est assez fastidieux. Souvent les lésions, on les voit pas. Il faut les traiter à l'aller parce qu'au retour, comme on n'a pas arrêté de plier le grêle, il y a des lésions induites par l'entéroscopie. On ne sait plus très bien où on en est. Et donc on peut avoir, et ce qu'on voit des fois avec la vidéocapsule, plein de lésions du grêle. Un examen compliqué pour celles dont on sait qu'on ne sera pas très efficace. Souvent, ça se vient sur des personnes âgées. On n'a pas envie de leur infliger des examens. Sous anesthésie générale de manière répétée. Et donc voilà, donc sur des lésions non accessibles à un traitement endoscopique, c'est vraiment la première indication. Et puis, ben, sur, malgré des traitements endoscopiques répétés, le besoin transfusionnel, clairement, ça doit s'instaurer dans cette logique de besoin transfusionnel régulier. Et donc, dans ces cas-là, en effet, les deux molécules pour lesquelles il y a plus de données, c'est l'octréotide et le thalidomide. L'octréotide en premier, puisque c'est quand même une molécule quand même un peu mieux tolérée, avec moins d'effets secondaires que le thalidomide. Donc je rappelle que l'octréotide, c'est un analogue de la somatostatine. Donc ça a pas mal d'effets, on s'en sert pas mal. Un médicament que nous on connaît bien, notamment avec l'hypertension portale, hein, puisque ça diminue le débit splanchnique, augmente la résistance vasculaire, et puis c'est un petit effet sur la diminution de la néo-angiogénèse, et ça augmente un petit peu l'agrégation plaquettaire. Alors je vais pas me lancer là-dedans, parce que c'est plus trop mon domaine. Il n'y a pas de grosses études randomisées. Il y en a une qui est en cours. En tout cas, je ne sais pas si elle est arrêtée, toujours en attente sur Google Trial. Mais globalement, l'effet attendu, ce n'est pas une guérison ou un arrêt, c'est une réduction de plus de 50% des besoins transfusionnels. D'accord? C'est ça qu'on attend. Donc c'est vraiment, on part là sur les moyennes, des patients qui avaient en gros 12 kilos par an, et ils passaient à 2 kilos par an. Et la majorité des gens avaient une diminution de plus de 50% de leurs besoins transfusionnels. Donc il y a deux, soit c'est en sous-cutané et ça s'inscrit sous les 12 heures, soit c'est en intramusculaire tous les mois, des doses de 10-20 mg. Et puis l'étude qui est en cours, c'est 40, mais on n'a pas les résultats. Et les gros effets secondaires, bah, ça diminue un peu les sécrétions pancréatiques et biliaires, donc ça peut favoriser les lithiases, et puis ça peut favoriser des signes comme de stéatorrhée, donc des selles un peu glaireuses, grasses, des flatulences, et puis un peu d'érythème. Donc c'est pas fort, des fois au niveau digestif, c'est pas forcément très bien toléré, mais ça reste quand même un médicament assez sûr, hein, comparé au thalidomide, qui lui a quand même plus de 30% d'effets secondaires, hein, type d'asthénie, vertige, et puis au niveau hémato, ça peut donner des neutropénies. Et puis je rappelle que c'est un médicament qui est tératogène, donc thalidomide ne doit pas être donné chez la femme en âge de procréer, ou alors faut qu'elle ait une contraception et qu'on soit sûr. Hein. Et donc on donne ça, le thalidomide, c'est 100 mg par jour, et c'est des traitements de 4 mois. Avec des bonnes réponses quand même, une étude qui a été publiée en 2011, 70% de taux de réponse contre 3,7 pour placebo. Voilà, donc nous, ce qui est recommandé, c'est vrai que c'est commencer par l'octréotide. On part sur un traitement de 6 mois à 1 an, et puis en cas d'échec de ce traitement-là, on peut discuter en deuxième intention le thalidomide. C'est des, on va dire, des d'accord d'experts, hein. Il n'y a rien d'écrit là-dessus.
D'accord. Alors, j'ai une toute petite question pour finir. C'est vrai que nous, on a entendu parler du bevacizumab, l'anticorps monoclonal humanisé, donc qui se lie au VEGF, hein, et donc qui est utilisé dans certains cancers du sein, donc un certain cancer pulmonaire, et donc qui est un anti-angiogénique puissant. Est-ce que vous pensez que le bevacizumab peut avoir une place dans le traitement dans la prévention des hémorragies digestives chez les patients qui ont des angiodysplasies digestives?
Alors pour l'instant, il n'y a aucune donnée. Les seules données du bevacizumab sont dans la maladie du Randy Hausler. Il y a une petite étude qui a sorti sur 16 patients où ils regardaient ça sur les ectasies vasculaires antrales. Et donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes lésions que les angiodysplasies. Pour les angiodysplasies, pour l'instant, il n'y a aucune donnée. Donc, en dehors de cas désespérés où on a tout essayé, voilà, et que c'est en RCP, on décide, mais il n'y a aucune donnée de la littérature pour utiliser ce médicament-là, pour les angiodysplasies, en tout cas, les patients atteints de maladies vibrantes.
Bien, merci beaucoup, docteur Archambault, pour toutes ces précisions gastro-entérologiques et endoscopiques sur le traitement des angiodysplasies et des hémorragies digestives. Et puis, eh bien, à bientôt pour un prochain podcast avec la revue francophone d'hémostase et de thrombose.
Merci à vous aussi pour toutes ces précisions sur la maladie de vibrante.
Podcast RFHT.